pour moi, c'est une grande joie d'être là, pouvoir faire un premier message. C'est pas la première fois que je fais des messages, mais c'est la première fois que j'en fais un complet. Un qui est plus long que 10 minutes, en tout cas. Mais en réalité, c'est vraiment une joie quand Fabrice m'a proposé, c'était au mois de décembre, de préparer un message. Au départ, je me suis mis devant Dieu et je me suis dit, ok, de quoi veux-tu parler, en fait? Et c'est quand même quelque chose que Dieu me mettait à cœur que de parler en son nom. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur d'apporter la prophétie, mais de manière un peu différente, avec ma couleur. Au départ, j'étais un peu perplexe, parce que je me disais, on parle déjà beaucoup de prophétie quand même, ici à Josué, donc il y a peut-être d'autres sujets que l'on peut traiter, que l'on peut aborder. Mais malgré tout, je sais que j'ai une couleur particulière, et que Dieu m'a donné vraiment des choses pour son corps, en fait. Notamment, vous remarquerez que le nom du message, c'est prophétie, église et exhortation. Merci David. Donc, exhortation, c'est pas seulement de la prophétie. Pour moi, ce qui est important, c'est aussi de faire quelque chose qui apporte vraiment de la nourriture au corps, un peu comme les lettres aux églises qui sont données dans l'Apocalypse, d'avoir quelque chose qui nourrisse le corps et qui, ouais, pour que le corps soit équipé dans les temps qui viennent, en fait. C'est un peu le but de ce message. Mais avant d'apporter vraiment une partie exhortation à l'aide de prophétie, je me suis dit, c'est quand même difficile pour les gens des fois d'accepter les prophéties lorsqu'on en parle tout le temps, qu'on dit que les bases sont acquises. Et je pense que c'est quand même bien de revenir des fois simplement sur des bases, juste pour montrer que c'est biblique, que ce n'est pas qu'une culture d'église le fait de parler de prophétie, mais que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en Dieu, qui est ancré dans sa parole, qui est voulu de lui, et ce afin de... Voilà, il faut croire que les prophéties sont vraies si on veut pouvoir ensuite être nourri avec ça, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que mon message sera en... Ok, d'accord. Voilà. Mon message sera donc en deux parties, et j'ai même fait le code couleur pour être plus clair. Une première partie avec uniquement quelques bases sur la prophétie, et sur la place des prophètes. Et une deuxième partie avec vraiment les exhortations en elles-mêmes et plusieurs visions qui ont été soit reçues par d'autres personnes, soit reçues moi-même de la part de Dieu. Donc il y a un peu de tout. Alors, il y aurait eu plein de choses à dire, mais je vous promets de ne pas faire trop long ni trop détaillé. Un premier point, quand je vous dis que je commence avec les bases, déjà quand on parle de prophétie, je me suis dit vraiment la base de la base, je vais dans la rue, je demande à une personne qui passe, ok, tu penses que, voilà, c'est quoi la prophétie? Déjà, la personne va me regarder sûrement très bizarrement, mais de manière générale, la vision des prophètes et de la prophétie, c'est simplement d'essayer de prédire l'avenir. Donc je dirais que dans le monde, on met souvent les prophètes au même niveau que tout ce qui est des devins, etc. Et c'est évidemment pas juste. Et ce n'est pas que des prédictions sur l'avenir. D'ailleurs, je pense que les profs de français seraient contents. J'ai mis la définition du Larousse. Toute prédiction faite par quelqu'un qui prétend connaître l'avenir, et on vous cite quelqu'un qui n'est pas spécialement chrétien. Voilà. Autre point, même dans le milieu chrétien, la prophétie n'est pas considérée... Tout le monde ne parle pas forcément de prophétie, et même certains se font une spécialité de dénoncer les prophètes. Parce que pour certains, les prophéties se sont arrêtées avec les apôtres du Nouveau Testament, et que tout s'est arrêté à ce moment-là. Bibliquement, ce n'est pas juste. Et c'est justement parce qu'on a plein de visions différentes dans le monde sur la prophétie que je voulais revenir sur quelques vérités bibliques, avant de commencer l'exhortation. Quelques vérités. Alors, au sens large... Une prophétie peut se définir comme recevoir une parole de Dieu pour son peuple. Donc, ce n'est pas qu'une prédiction de l'avenir. J'essaie pas d'avoir l'air puissant en disant « Oui, je vois qu'il y aura telle et telle chose à tel moment-là, et voilà, vous avez vu comme je suis inspiré de Dieu. » Non, le but d'un prophète, même de personnes qui ne sont pas forcément avec un ministère prophétique, mais c'est vraiment de recevoir une parole de la part de Dieu, et c'est pour les autres. Le but de la prophétie, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 14, versets 1 à 4, c'est d'édifier, d'exhorter, de les consoler. Et voilà, il précise encore, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Donc c'est vraiment le but de la prophétie, édifier l'Église, la consoler, l'équiper pour la suite. D'autres points qui étaient importants au niveau des versets, déjà... certains ont dit que les prophètes n'avaient pas leur place dans l'Église, et je ne suis pas d'accord, parce que littéralement dans Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et ça nous montre bien que dans une Église, déjà il ne doit pas y avoir que des prophètes, mais on ne doit pas non plus les exclure totalement. Chacun a son rôle, et les prophètes, justement, ont aussi leur place, au même titre que évangélistes, etc. Dans Actes 2, versets 16 à 21, je vais pas tout vous lire, mais dans ce verset, on parle du fait que ce n'est pas que les prophètes de l'Ancien Testament qui peuvent prophétiser, mais en réalité, c'est toute personne, les jeunes, les vieillards, etc. Toute personne pourra avoir des songes, des visions, et en gros, des paroles prophétiques. Donc quelque part, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, tous ceux qui le désirent. Et c'est assez logique, parce que dans toute la Bible, on nous parle d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Et quelque part, si la définition de la prophétie, c'est de recevoir une parole de la part de Dieu, tout le monde doit le pratiquer un petit peu, quelque part. Mais c'est une définition au sens large. Effectivement, si tout le monde peut recevoir, un don de prophétie peut recevoir des prophéties à tel ou tel moment. Tout le monde n'est pas forcément appelé à un ministère prophétique. Tout le monde n'est pas appelé à consacrer toute sa vie uniquement à ça. Mais certains peuvent l'être quand même. Et le dernier verset, je le garde pour un peu plus tard, quand j'aborderai un autre sujet. Alors, images et rôles dans l'Église. Alors cette fois-ci, il s'agit d'images que j'ai reçues personnellement dans mes temps personnels avec Dieu. Je me répète un peu. Une première image, vous savez qu'il est écrit dans la Bible que le corps de Christ, c'est comme le corps humain. On a plusieurs organes qui sont différentes personnes dans l'Église, et ils vont tous fonctionner ensemble. Si on prend cette image d'un corps humain en fait en tant que corps de Christ, alors les prophètes seraient un peu comme les yeux du corps. Ils ont pour but de voir plus loin. Ils ont pour but de voir plus loin et d'apporter des informations sur ce qui est en train de venir devant. Imaginez que je marche, c'est quand même pratique que je puisse voir ce qu'il y a devant. Après, si j'enlève les... Bon, on va éviter de faire ce genre de choses, mais si j'enlève les yeux chez quelqu'un, ce qui est assez bizarre dit ainsi, la personne ne va pas... le corps pourra toujours vivre, mais par contre, il ne pourra pas vivre tel qu'il a été appelé à l'être. On est fait pour voir, justement. Il en est de même pour l'Église. L'Église a besoin des prophètes pour voir. Néanmoins, vous remarquerez que les yeux ne sont pas le cerveau. Ce n'est pas la tête en elle-même, ce n'est pas le centre, mais ils ont quand même un rôle important. Et un dernier point que je trouvais vraiment important dans cette image, c'est le fait que les yeux sont vraiment ancrés dans la tête. Et du fait que c'est ancré dans la tête, ça représente le fait qu'ils doivent être vraiment collés à Jésus. Tout prophète doit avoir vraiment une intimité très proche avec Dieu. Une autre image par rapport à la prophétie est celle de prophètes comme des sentinelles qui seraient sur les remparts d'un château fort. Ils ont souvent pour but, de par leur sensibilité, de voir ce qui est en train de venir, ce qui est positif comme ce qui est négatif, et de prévenir justement le château qu'il y a des choses qui arrivent tout simplement. Donc ça souligne deux points, c'est déjà, vous voyez qu'il est quand même plus vulnérable en étant sur les murailles, en étant... devant tout le monde, il suffirait qu'il y ait un ennemi qui arrive et tire une flèche, et ce sera le premier, en termes de timing, à être touché. Donc quelque part, souvent les prophètes sont un petit peu avant-gardistes, sont un peu sur le front. Et l'autre point, ça souligne aussi dans cette image la responsabilité des prophètes comme étant chargés de rendre leur message assimilable. Si jamais ils voient quelque chose et qu'ils n'arrivent pas à se faire comprendre du reste du château, ce sera un peu compliqué pour la suite. Il n'aura pas rempli correctement son rôle. Donc ça souligne un autre point important qui me tient vraiment à cœur pour les temps actuels. C'est vraiment que les prophètes rendent accessibles toutes les paroles qu'ils reçoivent pour que le corps puisse être vraiment nourri et connecté à ce qu'ils reçoivent. Et ça, c'est des images qui me parlaient beaucoup. Alors, vrais prophètes, faux prophètes, pardon. J'aborde un petit peu ce sujet, parce que vous savez que je travaille ici au Daniel, et c'est un milieu où on peut côtoyer différents mouvements. Donc vraiment, je côtoie des gens qui des fois ne sont pas du tout pour les prophètes, et qui ont déjà fait des messages pour expliquer en quoi faites attention aux faux prophètes, méfiez-vous des faux prophètes, et en gros, c'était ça pendant à peu près une heure. Mais c'est pas faux, Parce que comme vous pouvez le voir au début de Matthieu 7, verset 15, Jésus l'a lui-même dit en fait, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, etc. Mais en même temps, il y a quelque chose qui m'était vraiment mal à l'aise avec cette optique-là. Si on réfléchit qu'aux faux prophètes, eh bien après on ne peut plus recevoir des paroles prophétiques pour être nourri et avancer avec Dieu. Or, c'était écrit avant qu'il est nécessaire d'avoir des paroles prophétiques pour être édifié dans l'Église, pour être exhorté, etc. Et à différentes échelles, hein, ça peut être au niveau personnel, au niveau de l'Église, etc. Donc, voilà. Je me suis posé cette question et Et je me suis demandé, ok Seigneur, comment on fait pour reconnaître les vrais des faux prophètes? Parce que je me dis que s'il y a des faux, il y en a quand même des vrais. Et j'aime beaucoup ce verset que voilà où Jésus parle. Il nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Et quand on parle de fruits, bah moi je prends comme exemple les fruits de l'esprit, qui sont cités dans Galates, c'est-à-dire la paix, la joie, la maîtrise de soi, la bienveillance, la bonté. Et en me basant là-dessus, ça m'a permis de pouvoir voir plus clair et de pas vivre dans la peur de tomber sur quelqu'un qui voudrait me manipuler ou quelqu'un qui au contraire ferait mal aux prophéties. C'est vrai qu'on peut vivre constamment dans la peur et ce n'est pas une bonne chose. Donc j'aime beaucoup ce que dit Jésus ici. Il faut quand même éprouver, mais en regardant aux fruits. Autre verset que j'aime beaucoup, c'est justement l'exhortation de Paul dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. J'aime beaucoup parce que c'est très, très équilibré. Donc on a vraiment cet aspect où non, il ne faut pas par peur choisir de tout éteindre. Il y a certaines églises qui parfois le font, se disent « Ouais, mais la prophétie n'a plus sa place, ça n'existe plus aujourd'hui, on veut pas voir les choses un peu bizarres qui se passent ailleurs. » Et ils choisissent d'éteindre l'esprit à ce moment-là. Et ce n'est pas juste. En même temps, faut pas non plus être naïf et penser que tout le monde est gentil, parfait, etc. Et c'est une bonne chose d'éprouver toute chose en se mettant devant Dieu et en demandant au Saint-Esprit « Ok, qu'est-ce qui est vraiment de toi ?» Ça peut aider. Parce qu'il est déjà arrivé des fois, je sais pas pour vous, mais des fois où quelqu'un vous donne une prophétie et en fait vous vous sentez super mal après. Je veux dire, la majorité des prophéties que j'ai reçues étaient vraiment, vraiment inspirées de Dieu. Et vraiment des fois où je me disais, mais ce gars je le connais pas, c'est impossible qu'il ait connu ça par lui-même. Vraiment, c'était vraiment impressionnant. Et d'autres fois où des paroles de connaissance, on sentait que la personne cherchait un peu à se valoriser elle-même. Elle cherchait à, je sais pas, elle avait une idée en tête et du coup elle disait des fois des paroles assez condamnatrices ou des paroles qui allaient dans ce qu'elle avait elle en tête. Et moi j'étais très mal à l'aise, me disant mais ça me correspond pas, qu'est-ce que je fais de cette parole, etc. Et j'aime beaucoup par conséquent ce verset qui nous dit éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ça veut dire que oui, je ne suis pas obligé de subir l'oppression de quelqu'un qui serait mauvais. Alors, vous, à Josué, c'est peut-être pas le truc qui va le plus vous parler, mais je sais que pour certaines personnes, c'était dur, parce qu'elles ne savaient pas comment se positionner par rapport à la prophétie, justement parce qu'elles ont été blessées, en fait, par des prophètes ou des gens qui ont prophétisé sans être vraiment prophètes, et qui ont dit des choses qui étaient des fois vraiment dures. Vraiment des fois des choses assez impressionnantes, mais je m'attarderai pas trop dessus. Une autre reproche qui était faite aux églises qui pratiquent la prophétie, on associe souvent les fruits de l'esprit, la prophétie, au côté émotionnel. Et par conséquent, on dit « Ouais, mais c'est que des émotions, ce n'est pas réel en fait la prophétie. C'est juste des gens qui ont envie de se dire de bonnes choses, etc. » Et non, il n'y a pas que ça. Après, c'est pour ça que j'aimais beaucoup le passage que je vous ai mis ici. « Ma sagesse ne siège pas dans ta pensée seule, pas plus que dans ton cœur. Ma sagesse réside dans l'union parfaite des deux, pensée et cœur. L'homme a été fait à mon image. Sa pensée et son cœur doivent aller de pair, ce qui est impossible en dehors de moi. » C'était donc voilà extrait d'un livre prophétique où Jésus s'adressait à l'auteur. J'aime cela parce que parfois, dans le milieu charismatique, on se dit tout ce qui est intelligence, enfin voilà, faut pas que ce soit dans la tête, faut que ce soit dans le cœur. Et dans d'autres milieux, J'ai vu l'inverse. Littéralement, quelqu'un m'a déjà dit que la foi, c'est uniquement intellectuel et que les émotions n'ont pas leur place. Il me l'a vraiment dit en face lors d'une discussion. Et je trouvais vraiment tout ça très déséquilibré. Et c'est pourquoi cette parole me parlait beaucoup, la véritable sagesse de Dieu. Elle prend autant en compte l'intelligence que les émotions. Parce que, bah voilà, quand on donne notre vie à Dieu, on se donne entièrement à Dieu, tout simplement. Voilà. Et quand je vous parlais un peu des fruits de l'esprit avant, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Ce qui est vraiment inspiré de l'esprit doit produire ses fruits. Fruits, pardon. Ok, partie 2. Je vais passer maintenant aux exhortations en elles-mêmes. Il y a quelques temps, je suis tombé sur un livre dans ma bibliothèque qui s'appelle « Vision prophétique pour le 21e siècle ». Alors j'étais assez curieux parce que ce livre a été écrit dans les années 90 et forcément moi en voyant ça, je me suis dit « je serais curieux de savoir si vraiment elles se sont accomplies ou pas ». Alors je sais qu'on n'est qu'au quart du 21e siècle, mais quand même ça fait quelques années et voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit « on va voir s'ils ont raison les prophètes ou pas ». Et j'ai trouvé quand même beaucoup de visions vraiment très intéressantes pour l'Église. Avant même de parler de cette vision-là, un point qui m'a beaucoup parlé, c'est par rapport à comment nous appréhendons les persécutions et les malheurs. Je suis sûr, vous avez déjà vu plein de gens, sûrement à mon avis, qui sont déprimés à cause du réchauffement climatique, de la guerre en Ukraine, ou de plein de sujets qui sont assez durs. Et à l'époque, dans les années 90, il a fait tout un chapitre sur le bug de l'an 2000. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, à l'époque. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est vraiment intéressant, en fait. Comment ils traitaient ça à l'époque? Et c'est vrai qu'il y avait vraiment une énorme peur du bug de l'an 2000. En fait, c'est comme, voilà, un souci dans, je crois, la conception, la programmation de la technologie qui aurait pu, en fait, provoquer l'effondrement de l'économie mondiale. Et donc, tout le monde voyait ici, déjà, la fin de l'économie mondiale et donc la fin du monde occidental moderne. Et c'était impressionnant au point que beaucoup de chrétiens étaient venus même à faire des réserves, à faire des caves uniquement pour les réserves, etc., des bunkers, j'en passe. Et il y avait toute une peur qui était derrière. Le prophète en question, c'est Rick Joyner, ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé un an à faire des recherches et surtout à demander à Dieu, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ça? Il a fait ça courant des années 90. Et ce qu'il a reçu de Dieu, en fait, c'était juste, ne soyez pas ébranlés. Et ensuite, Jésus lui a encore dit, en fait, voilà, je suis pas sur mon trône en train de me tordre les mains de stress en me disant, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je suis souverain. Et ça m'a beaucoup parlé parce qu'ensuite, bah voilà, j'ai fait mes recherches sur Internet et le bug de l'an 2000, effectivement, n'a eu qu'un impact très limité. La plupart des entreprises ont réussi à s'adapter, à changer de technologie. Quelques-unes ont subi des dégâts, mais la plupart des gens ont réussi à s'adapter et finalement, l'économie, très rapidement, s'est relancée. Donc l'impact était vraiment assez soft en soi. Après, je ne suis pas un expert du sujet, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant de me dire, c'est vrai que des fois on peut être focalisé sur l'actualité, et en réalité, Dieu il voit tellement de là, il sait déjà comment ça va se dénouer. Et donc, quand il nous dit de ne pas nous ébranler, enfin ne soyez pas ébranlés, ben, c'est vraiment le cas en fait, il gère tout. Parlons de cette vision. Cette vision, c'est celle où l'auteur du livre, justement, est dans un bateau de guerre avec un radar. Sur le radar, il y a un gros point rouge, et ce gros point rouge, en fait, c'est les tribulations. Donc les grandes tribulations de la fin des temps, tous les malheurs vraiment extrêmes, etc. Et voyant ce point rouge se rapprocher du bateau, à chaque fois, il donnait des ordres au reste de l'équipage. Il leur disait « virer à tribord, virer à bâbord », mais chaque fois qu'il changeait de direction, finalement, le point rouge se replaçait devant lui, et il ne pouvait plus rien y faire. Au bout d'un moment, le point rouge était très très proche, et tout ce qu'il a pu faire, c'était de crier dans les haut-parleurs, « Impact imminent, préparez-vous ». Donc tout le monde fermait les yeux, mais au moment de l'impact, il n'y a eu rien du tout. Et après, il n'y avait plus de point rouge sur le radar. Quand cette vision s'est terminée, il s'est tourné vers Dieu et il a fait, « Mais quelle est la signification de cette image ? Je veux dire, ça veut dire quoi, que ce n'est rien ?» Et en fait, Jésus lui a dit, « Tu vois ces grandes tribulations, c'est vrai qu'il y aura des malheurs, etc., mais à l'échelle de l'éternité, ce n'est vraiment pas grand-chose. Ce n'est pas pour minimiser les malheurs qui existent dans le monde, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une promesse qui est bien, bien plus grande. On a quand même l'éternité, on ne se rend pas compte de ce que ça représente. L'éternité, c'est l'infini, en fait. C'est juste complètement fou. Donc on a quand même une éternité sans aucun malheur de bonheur, avec des choses qui nous dépasseront sûrement, qu'on ne peut pas appréhender ici sur Terre. Et tout ça, c'est promis grâce à Jésus. Donc c'est vrai que finalement, les grandes tribulations, les malheurs qui arrivent dans le monde, ils sont réels. Mais comparé à ce que Dieu prépare, c'est peu de choses. Comparé à sa gloire, c'est peu de choses en fait. Vision suivante. Alors cette vision concerne plutôt, je dirais, les responsables d'église en fait. Vision des églises comme des surfeurs. Alors au début, Rick Joyner a reçu principalement cette image pour l'église d'Amérique. D'ailleurs, on a une image de surfeur ici. Hein. Voilà, illustration, c'est inspiré. dans cette image, il y avait un surfeur qui avait une petite planche et qui voilà, barbotait en fait dans les petites vagues qui étaient devant, enfin vraiment au bord de la plage. Et il attendait vraiment le grand réveil, donc la grande vague qui allait venir, etc. Et du coup, voilà, il barbotait, tout, il disait juste « Allez hop, faut que le réveil arrive !» Quand soudain, en fait, justement, une première grande vague est arrivée. Et quand c'est arrivé, en fait, il n'était pas du tout préparé. Il se l'est pris en pleine face, au point où, pris dans les remous, il a failli mourir. Mais il a quand même survécu de justesse et il s'est retrouvé ensuite à l'hôpital. À l'hôpital, alors d'abord il y a eu une phase un peu de douleur, de deuil en disant « Ah Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Je comprends pas, etc. » Et après finalement sa détresse s'est changée en résolution. Il s'est dit « Maintenant, voilà, je vais me préparer. » Et donc pendant tout le temps de convalescence qu'il a eu à l'hôpital, il a commencé à rédiger, à réfléchir, à se tourner vers Dieu, à s'inspirer de lui, etc. Après il a encore fait de l'entraînement, et cette fois-ci quand il s'est entraîné, il s'est vraiment entraîné dans le but de prendre des grandes vagues, donc vraiment avec toute la technique que cela impliquait. Pendant qu'il était sur la plage, à s'entraîner justement à prendre des grandes vagues, il voyait d'autres églises, d'autres bonhommes, qui étaient sur la plage. Eux aussi étaient très musclés, mais pas de la même manière. Et c'est pour ça que je vous ai mis une image de bodybuilder. Pardon. Ces églises étaient vraiment dans l'optique de faire du muscle. Ça montrait en fait que ces églises cherchaient à gagner de la force, mais pas pour les bonnes raisons. Ils n'étaient pas préparés à prendre la vague, mais ces églises cherchaient surtout à leur image en fait, leur force pour elles. Et je trouvais cette image très parlante à grande échelle sur comment nous nous préparons pour les temps de réveil qui doivent venir en fait. Ok. Une dernière image. Alors cette image, elle est beaucoup beaucoup plus longue. C'est vraiment tout un chapitre qui fait une trentaine de pages, et je ne pourrais pas la résumer entièrement. Mais je voulais quand même en citer quelques passages. Il a eu à ce moment-là une grande vision où l'église était représentée en fait sur une île au milieu de l'océan. L'océan représentait tous les peuples du monde, et sur l'île, on retrouvait plusieurs bâtiments. Tous les bâtiments qui étaient présents sur l'île représentaient des dénominations différentes. C'était l'église mondiale, donc on avait tout, on avait des bâtiments très anciens, des bâtiments qui étaient au contraire très très modernes, et surtout au milieu de ces bâtiments, on avait une énorme guerre civile. En fait, dès qu'un bâtiment commençait à être plus haut que les autres, une armée était déclenchée par un autre bâtiment pour aller détruire le bâtiment qui était plus haut. Et c'est quelque chose qui est quand même réel, même si évidemment la plupart du temps ce n'est pas avec des vraies armes, c'est souvent via, vous savez, des articles un peu assassins, ce genre de choses, des trucs très rabaissants, et qu'on provoque justement des dégâts en fait. L'ironie c'est qu'ils allaient même jusqu'à détruire les hôpitaux, donc les mouvements qui avaient pour but la guérison, parce que justement ils avaient trop peur que ces bâtiments deviennent plus hauts que le leur. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros c'était vraiment quelque chose de très très cruel comme guerre, et l'auteur s'est posé la question un moment, mais Jésus, pourquoi tu permets ça en fait? Et c'est à ce moment-là où Jésus s'est tourné vers lui et lui a dit de manière vraiment très très solennelle, je permets cela afin que cela ne se reproduise plus jamais. Et cela, après Jésus disait encore ensuite, quand le cri des personnes qui sont dans le monde en fait, dans l'océan, sera plus fort que ceux qui sont sur l'île, alors je permettrai aux vagues de l'océan, c'est-à-dire souvent les vagues de terreur, de malheur dans le monde, d'aller sur l'île de façon à, entre guillemets, raser et revenir sur l'île ensuite. C'est vrai que je me dis, ça veut dire quoi ça, Seigneur, en fait? C'était assez perturbant. Mais ce qui m'a beaucoup parlé, C'est surtout que, voilà, aujourd'hui, des fois, on se dit, mais à quoi ça sert de construire notre église? À quoi ça sert de travailler pour l'église? Alors que, ben, voilà, avoir l'unité dans l'église aujourd'hui, c'est quelque chose qui est presque impossible. Il y a tellement de divisions, etc. Mais ce qui était vraiment surprenant, c'est que lorsque des vagues du monde ont frappé l'église, ils l'ont rabaissée, après, il ne restait que ceux qui avaient justement combattu ou construit pour l'église, en fait. Parce que, sur l'île, avant, il y avait des gens qui faisaient la guerre, mais il y en avait aussi d'autres qui, eux, construisaient, justement, pour faire du bien aux autres, pour amener les gens à Dieu, etc. Bien, tous ceux qui avaient construit, après les vagues, après les malheurs, etc., restaient quand même sur place, et ensuite étaient devenus comme des lumières et servaient de base lorsque Jésus reconstruisait tout, en fait. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais après, tout le reste de l'image, c'est en fait, justement... Il y a une vision de gloire qui est impressionnante. Je veux dire, on parle de réveil, mais je suis vraiment convaincu que ça va plus loin que ça. C'est pas juste un réveil où, ok, voilà, on va prier, il y aura du parler en langue. Non, c'est vraiment un réveil où l'Église va être transformée avec une sagesse particulière. C'est ça. Avec peut-être des miracles de la puissance, mais avec vraiment une sagesse et un amour très, très particulier tel que l'Église n'en a pas encore connu. Et quand je recoupe un peu les différentes prophéties, ça se rejoint, il y a vraiment cette promesse de gloire, alors que bon, aujourd'hui, tu te dis, ça fait longtemps qu'on parle du réveil, alors ça veut dire quoi, Seigneur? Et pourtant, c'est juste que Dieu n'est pas pressé, il prend le temps nécessaire pour nous préparer, afin que nous soyons suffisamment solides pour les temps de gloire qui suivent. Voilà, ça c'est... C'était une image à grande échelle pour l'Église. Une autre parole encore que j'avais reçue, cette fois, c'est moi personnellement qui avais reçu cette parole en 2018. En 2018, j'ai pris un temps de jeûne en fait. Je crois que c'était Huguette qui organisait un temps de jeûne à cette époque. Mais moi, j'étais chez moi avec mon ordinateur. Et j'ai pris un temps de jeûne juste pour recevoir la parole de Dieu. Il y a vraiment le Saint-Esprit qui est tombé sur moi. C'était vraiment impressionnant. Je ne sais pas comment vous décrire la présence de Dieu, mais il y a des moments où on la ressent de manière très très particulière. Et à ce moment-là, c'est là que j'avais reçu cette vision-là. Alors, la vision parle de préparer l'unité, que voilà, nous sommes dans des temps de préparation, et ça fait longtemps, on en parle depuis, je dirais, 2015, 2016, quelque chose comme ça. Et que dans ces temps de préparation, la préparation à laquelle chacun est vraiment appelé, c'est justement de préparer cette unité. Alors comment ? Ben justement, en faisant attention à ne pas nourrir ce qui provoque la division, comme le manque de pardon, comme l'auto-justice, comme l'amertume, comme la honte ou la peur du regard des autres, comme l'autosuffisance, l'orgueil, et après il y en a encore bien d'autres, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Dans cette vision, je voyais qu'il était important de préparer cette unité, parce qu'une fois que les temps de préparation seront terminés, et sûrement probablement avec la fin des travaux, on sera comme dans un temps de greffe avec l'église Josué, c'est-à-dire un temps où plusieurs groupes, plusieurs relations vont revenir. C'est là où ça rejoint un peu ce qu'a dit Henning il y a quelque temps. Il va y avoir des relations qui vont être restaurées. Des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, des personnes que l'on ne connaît pas aussi. On va se retrouver avec tout un puzzle de personnes avec des passés très différents. Et ça va être comme une greffe qui va devoir apprendre à vivre ensemble. Et c'est là où une église est très vulnérable justement par rapport à la division. C'est pourquoi apprendre à aimer, à pardonner, ça se fait déjà maintenant. Et ça servira beaucoup pour la suite. Alors je sais que cette image date de 2018, mais je crois qu'elle est toujours d'actualité. Parce qu'on n'a pas réellement changé de saison depuis 2018. On est toujours un peu dans la même saison, même si ce n'est pas... voilà. Même si c'est quand même plus avancé aujourd'hui, on est à peu près dans la même saison. Et il est déjà... Oui, je vais un peu accélérer. C'est la dernière diapo. Je vous rassure. En termes d'exhortation pour l'Église, là c'est beaucoup plus récent par contre. L'autre point que je recevais ces dernières semaines quand j'ai pris des temps de prière, déjà vous rappelez dans quelle saison nous sommes. C'est vrai qu'actuellement la saison que nous vivons est une saison qui est longue, qui vraiment ça peut être usant. Une saison qui est difficile, mais qui va être fondamentale pour la suite. Littéralement c'est comme si on avait pris une maison, on enlève tout, et on garde juste les fondements, et on les titille, on les travaille jusqu'à ce que ce soit prêt pour la suite. on se rend pas compte à quel point c'est profond, parce que si réellement il y a un poids de gloire gigantesque et des choses qu'on n'a encore jamais connues, ça veut dire que les fondements doivent être vraiment, vraiment très solides. Et c'est pourquoi certaines personnes passent par des dépouillements énormes, c'est-à-dire face à la dépression, toute leur vie paraît complètement rasée, détruite. Et encore, je cite ça, mais il y a plein, plein d'autres épreuves actuellement qui sont pas évidentes. Mais tout ça pour but justement d'apprendre à suivre Dieu, quelles que soient les circonstances, et aussi parce que dans chaque épreuve, si on s'accroche à Dieu, il y a toujours Dieu qui a quelque chose à dire, il y a toujours une parole, un encouragement, et on a besoin d'être vraiment au fondement pour reconstruire correctement ensuite. Je voulais quand même rappeler un petit peu, voilà, alors j'ai laissé mes versets dans mes notes, dans mon sac. Chaque fois que l'on persévère dans les temps actuels, il y a quand même des récompenses célestes à la clé. Il y a plein de versets où même Jésus nous dit, par exemple, celui qui aura donné ne serait-ce qu'un verre d'eau à un enfant simplement parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, ne perdra pas sa récompense. Et plein de versets vont dans ce sens. C'est important de retenir ça pour savoir que même si on a l'impression que les choses durent et deviennent vraiment répétitives et vraiment lourdes, chaque petit pas ne sera pas oublié par Dieu et Dieu saura les récompenser. Oui, quand Dieu juge, c'est pas juste pour rappeler ce qui va pas. Il va aussi valoriser justement tout ce qui a été fait pour lui. Même si le but n'est pas d'être des mercenaires, hein. Il va pas nous payer pour chaque bonne action. Mais je veux dire, Dieu voit justement chaque pas de persévérance et ça va vraiment préparer l'éternité. Ok. Alors, quelques outils essentiels pour les temps actuels et futurs. Maintenant, concrètement, comment faire pour tenir dans les temps actuels si jamais il y a des situations très difficiles? Il y a deux points qui me sont vraiment, vraiment ressortis. Et un des principaux points, c'est de d'écrire et de reconserver les paroles. J'ai vu beaucoup de gens se décourager et dire « Mais finalement, tu sais, Dieu, ça n'a pas vraiment existé. Finalement, tu sais, tout ce qu'on a vécu ici, il n'y a rien vraiment eu. Ça n'a jamais été vraiment bien. » Parce qu'en fait, ils avaient oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Parfois, c'est même des gens qui avaient vécu des miracles, et bien plus grands que ce que moi, je n'ai jamais vécu. Mais parce que leur cœur a oublié ce que Dieu avait fait, et bien ils sont devenus beaucoup plus vulnérables par rapport au découragement. Donc, c'est vraiment une arme extrêmement importante pour lutter contre toute forme de découragement, c'est d'écrire et de conserver chaque parole qui sera donnée. Je parle beaucoup des paroles de connaissance à titre personnel. Parce que vous savez, des fois on prie, oui, je vois que telle et telle chose pour toi, et après des fois on oublie de le noter, on oublie de le relire. Et c'est tellement dommage parce que moi je suis retombé sur des paroles qui datent du tout début de ma conversion et je vois aujourd'hui qu'elles se sont accomplies. Mais des fois ça a mis 7 à 10 ans à s'accomplir. Certaines choses s'accomplissent rapidement, d'autres vont mettre beaucoup plus de temps. D'où l'importance de conserver les écritures. Je vous rappelle qu'il y a des prophètes dans l'Ancien Testament dont la prophétie s'est réalisée que des centaines d'années après, 400, 500, bien plus encore. Donc c'est vraiment très très important. Et justement, je l'ai mis ici, redonner de la valeur, sans S, aux paroles reçues. C'est aussi que des fois, on est habitué aux paroles de connaissance ou aux paroles prophétiques qui sont données un peu rapidement. Et pour moi, je me dis, mais est-ce qu'on serait prêt à attendre plusieurs années pour recevoir ne serait-ce qu'une parole de Dieu? Je repensais beaucoup à Gédéon sur ce point. Quand Dieu a parlé à Gédéon, ça faisait quand même 7 ans qu'ils étaient oppressés par les Madianites. Quand je dis oppressés, ils n'avaient plus de nourriture, ils se faisaient constamment tout voler. Et, entre guillemets, ils avaient des raisons légitimes de penser que Dieu les avait laissés tomber. Mais malgré tout, Dieu a quand même fini par revenir vers eux, malgré les péchés, etc. Et Dieu avait déjà tout prévu, en fait. Il voyait déjà en Gédéon ce qu'il allait devenir, et comme quoi c'était un vaillant héros. Alors que pourtant, il était assez faible et un peu critique au début. Tout ça pour vous dire... Je me suis un peu perdu. Ouais. Est-ce que nous serions prêts à attendre 7 ans pour une simple parole de connaissance? Je veux dire, des fois, dans nos milieux, on en donne beaucoup. Est-ce que vraiment vous les trouvez précieuses? Est-ce que vous pensez que Dieu peut parler au travers de ça? Et je vous encourage simplement à vraiment ne pas les oublier, pas les perdre. Bah, comme dit au début, à aussi éprouver ce qui est bon et à garder ce qui est bon. Mais surtout à ne pas les perdre. Enfin, pour terminer, préparer des trousses de secours spirituels. Alors, il y a plusieurs versions. Disons, je me suis rendu compte, moi, quand je conservais mes paroles, que ce soit des paroles de connaissance, des versets ou autre chose, que ça restait dans une armoire et que je ne les lisais plus. Donc, il y a eu un moment dans mes temps de maladie où j'avais besoin d'un accès beaucoup plus facile justement à toutes ces paroles. Et donc j'ai commencé à coller sur le mur en fait, à épingler tout ce qui m'avait touché. Donc chaque fois qu'un verset, qu'une parole me parlait, je le mettais sur le mur. Comme ça, quand je me baladais dans la chambre, bah, tout de suite je tombais dessus et j'étais nourri par ça. J'avais pas besoin de trouver l'effort de chercher quelque chose dans une pochette. C'est important, notamment si on doit faire face à des choses comme... voilà, ça peut être des maladies, ça peut être de la dépression. Vous n'avez pas forcément l'énergie de faire des recherches. Donc avoir des trousses de secours, de versets faciles à utiliser ou des paroles prophétiques faciles à utiliser, c'est un outil qui sera vraiment important pour la suite. Et sans rentrer trop dans le détail, un autre exemple, ce sont aussi les versets force de mon ami la Bible de John Cheryl. Lui, comme trousse de secours, et il s'est fait 100 versets à utiliser dans plein de situations. Donc en cas de tristesse, voilà les versets à proclamer. En cas de dépression, voici tel verset à proclamer. Et je trouve que c'est aussi intéressant. Il n'y a pas forcément un modèle de trousse de secours, mais je crois quand même que pour les temps actuels, il est important d'avoir une trousse de secours spirituelle qui permette de ne pas se laisser abattre trop facilement. Voilà.